Vous écoutez France Culture.
Il est 7h41. Il y a des semaines comme ça, comme cette semaine, où rien ne va. On regretterait presque d'avoir espéré publiquement que la courbe du chômage allait s'inverser un jour, peut-être. Ça commence avec les chiffres du chômage. Lundi, qu'on pourrait appeler la sanction mensuelle du gouvernement, plus 15 400 demandeurs d'emploi en mars. On dépasse les 3,5 millions de chômeurs de catégorie A, avec une hausse quasi continue du chômage des jeunes et du chômage de longue durée. Ça se poursuit avec l'annonce d'un plan de licenciement chez Renault Trucks, 500 postes supprimés, et un autre annoncé hier soir chez Vallourec, moins de 900 emplois en France, moins de 2000 dans le monde. Ajouté à ça le rachat de la deuxième société de transport française, Norbert Dentressangle, par une société américaine, quelques semaines tout juste après l'annonce du rachat d'une partie d'Alcatel-Lucent par le finlandais Nokia. Et pour compléter le tout, une assemblée générale des actionnaires de Renault, ce sera cet après-midi, qui menace de se transformer en pugilat entre le gouvernement et le PDG Carlos Ghosn, tout juste 10 ans d'ailleurs après sa nomination. C'était le 29 avril 2005, à la tête du constructeur français. Pugilat pour cause de loi Florange et de volonté de l'État d'augmenter sa part dans l'entreprise et de retrouver une minorité de blocage. Alors, mis bout à bout, tout ça commence à faire de cette semaine une semaine noire qui tombe bien mal, alors que pas plus tard que vendredi dernier, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, publiait dans Le Monde une tribune dans laquelle il se targuait de vouloir retrouver l'esprit industriel du capitalisme en mettant en place une nouvelle démocratie actionnariale. C'est pourquoi, ce matin, nous sommes entourés d'un parterre d'éminentes et d'éminents économistes pour passer au crible ce qu'on pourrait appeler cette hebdomas horribilis. Anne Hédoux, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes donc économiste, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et maître de conférences à l'université Rennes 2. Éric Kayer, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, et nous serons rejoints dans quelques minutes par Jean-Marc Daniel, qui est professeur à l'ESCP Europe et directeur de la rédaction de la revue Sociétale. Alors, avant d'aborder la politique industrielle et d'interroger les limites et la cohérence de l'intervention de l'État, j'aimerais qu'on parle dans cette première partie de la question du chômage. Peut-être pour commencer, quelles leçons peut-on tirer de ces deux plans sociaux annoncés coup sur coup cette semaine chez Renault Trucks et chez Vallourec ? Anne Hédoux.
Alors, je pense qu'il est difficile de tirer des leçons de plans sociaux. Il faut prendre un peu de recul par rapport au caractère brûlant de l'actualité. Ce qu'on peut dire, de manière globale, c'est que en France, les chiffres de l'emploi et du chômage ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons depuis déjà un moment. On est aujourd'hui à un taux de chômage au sens du BIT à 10,4%. Ça, c'est le chiffre au quatrième trimestre 2014. Selon Eurostat, c'est 10,6% aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas un bon chiffre du chômage. Si on compare avec nos voisins européens, je dirais que la zone euro s'en sort assez mal également, puisque le chômage est à 11,3% dans la zone euro. Donc on peut aussi interroger la manière dont la zone euro est gouvernée économiquement. Mais dans cette zone, au sein de cette zone euro, il y a une très forte hétérogénéité. Certains pays ont un taux de chômage très élevé, comme la Grèce ou l'Espagne, par exemple.
Près de 25% en Espagne.
Voilà. Et d'autres s'en sortent beaucoup mieux, comme l'Allemagne, qui est à 4,8%. Et puis maintenant, Le Royaume-Uni. Si on compare la zone euro avec l'Union européenne dans son ensemble, le Royaume-Uni ne faisant pas partie de la zone euro, l'Union européenne est à 9,8%. Elle s'en sort un peu mieux que la zone euro. Et puis, si on compare avec les États-Unis, ils sont à 5,5%. Voilà.
Mais passer ce constat sur les chiffres et la conséquence, en fait, de ces deux plans sociaux, est-ce que ça montre aujourd'hui l'incapacité de l'État, du gouvernement, à infléchir cette courbe qui a été la promesse maintes fois répétée du chef de l'État et du gouvernement socialiste Éric Kayer ?
Oui, alors, les plans sociaux, vous voyez que c'est dans les causes d'entrée au chômage, ça représente que 2,5%. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il y a un effet de loupe sur les plans sociaux, on en parle beaucoup, mais c'est pas vraiment ça la réalité du chômage en France. Vous voyez, ça ne représente vraiment qu'une partie infime des entrées au chômage. Donc, on peut dire plus largement qu'effectivement, étant donné qu'il y a un décalage entre ce qui se passe sur le marché du travail et ce qui se passe sur l'activité, ce décalage est à peu près de 3 trimestres, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur le chômage, ça reflète ce qui s'est passé il y a 3 trimestres sur l'activité. globalement. Et il faut rappeler que depuis 3 ans, en France, il y a zéro de croissance, 0,4. Donc on sait qu'avec 0,4% de croissance, les entreprises ne créent pas d'emplois, et même en détruisent. Et puisqu'on a une population active qui est dynamique, il y a plus d'entrées sur le marché du travail, de jeunes qui arrivent que de seniors qui partent à la retraite, mécaniquement, le chômage ne peut qu'augmenter. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Le gouvernement a essayé de limiter cette hausse du chômage par un traitement social du chômage, par des emplois aidés, les emplois d'avenir. Donc effectivement, ça a permis de limiter la casse, enfin...
Ou le contrat de génération, mais on reparlera des emplois aidés.
Donc il y a effectivement une politique économique, enfin une politique de l'emploi qui essaie de limiter la casse, mais globalement, sans croissance économique aujourd'hui, ben, malheureusement, c'est très compliqué d'avoir autre chose qu'une hausse du chômage. Donc peut-être que la seule vision un peu optimiste que l'on peut avoir, c'est que on pourrait avoir tout de même plus de croissance économique en 2015-2016 et on pourrait justement avoir cet taux de croissance dans l'avenir proche qui permettrait aux entreprises de recommencer à créer des emplois et donc peut-être avoir une stabilité du chômage dans les trimestres à venir et même pourquoi pas une baisse en 2016, mais attention, une baisse qui, comme l'a rappelé Anne Edouve, part d'un niveau de chômage extrêmement élevé. Donc même si on arrive à avoir 0,2, 0,3 points de baisse du chômage, bah, on va rester aux alentours de 10% et donc c'est sans doute des niveaux bien trop élevés pour considérer qu'on est sorti du problème.
L'INSEE, qui n'est pas très connu pour son optimisme, tablait pourtant d'une inversion, de cette fameuse inversion de la courbe aux alentours de mi-2015. C'est un scénario probable, compte tenu de ce qui est défini comme la reprise de la croissance.
L'INSEE n'est pas vraiment dans ce scénario-là, puisqu'ils mettent une stabilité du chômage. Donc, mais effectivement, on peut penser, enfin nous à l'OFCE, on fait des prévisions jusqu'à 2016, et effectivement, on inscrit une légère baisse du chômage en 2016. Il y a beaucoup d'éléments. Hein. Enfin, il faut, pour qu'il y ait baisse du chômage, il faut que la croissance économique repart. Or, on sait que ce qui permettrait d'avoir un peu de croissance économique sont des phénomènes un peu exogènes. C'est la baisse du prix du pétrole, c'est la baisse de l'euro. Bon, ce sont des éléments que ne maîtrise pas le gouvernement français, ni le gouvernement européen. Alors, un petit peu la baisse de l'euro par la Banque centrale. Mais vous voyez, on a eu des très mauvaises nouvelles pour les États-Unis hier. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de croissance économique au premier trimestre. Donc, est-ce que ça va changer la politique monétaire de la Banque centrale américaine? Et donc, est-ce que le dollar va arrêter de progresser et donc l'euro de baisser? Vous voyez que un des moteurs de la croissance de demain, c'est la baisse de l'euro, mais il est possible que ça soit remis en cause. Donc, vous voyez, c'est des facteurs extrêmement fragiles. Et donc, je suis assez d'accord pour dire que le problème n'est pas qu'un problème français, il y a aussi un problème européen. C'est-à-dire que globalement, la politique en Europe n'a pas été suffisamment porteuse pour que... Enfin, il faut se souvenir que le seul endroit au monde en récession en 2012-2013, c'était la zone euro.
Vous parliez à l'instant des contrats aidés. C'est l'arme naturelle, j'ai envie de dire, du pouvoir socialiste pour intervenir à court terme et donc avant ces 3 mois de délai que vous évoquiez sur le chômage. Or, contrat de génération, emploi d'avenir, pour le moment, c'est un échec relatif. Est-ce que ça veut dire que cette cartouche-là, cette cartouche traditionnelle de la gauche, elle est épuisée, elle ne fonctionne plus, Anne Edouve?
Alors, il faut quand même rappeler que les mesures ciblées de la politique de l'emploi de type contrat aidé, c'est des armes de faible portée. Hein. Donc, on ne peut pas espérer une baisse drastique du chômage avec ces instruments. Toutefois, effectivement, comme vous le dites, le contrat de génération, surtout le contrat de génération, apparaît extrêmement décevant.
Puisque... 20 000 demandes alors que le gouvernement attendait 75 000. Hein.
Voilà. Mmh. Donc, le contrat de génération, on peut parler de semi-échec, disons. Alors, peut-être qu'il y avait un problème dans la construction même de la mesure, dans son formatage. Pour les emplois d'avenir, c'est quand même un peu moins net. Les chiffres de 2007 montrent que, de 2013 montrent qu'on était autour de 70 000 contrats d'avenir, emplois d'avenir, ce qui a contribué à rajeunir le public des emplois aidés. Donc, bon, il y a quand même un petit effet sur le chômage des jeunes, mais bien sûr...
chômage des jeunes qui est l'une des constantes, hein, qui continue d'augmenter, même les mois où le chômage diminue légèrement. Éric Hier, vous n'êtes pas tout à fait d'accord?
Non, je pense que vraiment la conséquence du traitement social du chômage, ça a été ciblé sur les jeunes, et donc ça se voit, c'est-à-dire qu'y compris depuis un trimestre, si vous comparez, le nombre de chômeurs jeunes au mois de mars est inférieur au nombre de chômeurs jeunes il y a un an, donc ça fonctionne un tout petit peu. Hein.
Jean-Marc Daniel vient de nous rejoindre, bonjour.
Bonjour.
Sur cette question, on était en train de parler donc des contrats aidés, qui est la cartouche donc traditionnelle de la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, cette cartouche, elle a fait long feu? Est-ce que vous pensez que le gouvernement de gauche n'a plus ce recours-là, que ça ne marche plus?
Oui, je pense qu'on a fait long feu. Je pense qu'on arrive au bout d'un système qui coûte de plus en plus cher avec une efficacité de moins en moins grande. Alors, comme le dit Eric hier sur le plan statistique, on peut baisser comme ça le chômage. On peut considérer effectivement que sur le plan social, c'est une façon de permettre à des gens qui ont besoin d'avoir un cadre social organisé de maintenir un rapport structuré à la société. Mais je pense que sur le chômage, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que quand le président de la République, François Mitterrand, avait dit contre le chômage, on a tout essayé, c'était le moment où
rien n'a fonctionné.
Oui, et rien n'a fonctionné. C'était l'époque où l'OCDE publiait sa stratégie pour l'emploi. Donc, c'était en 93-94, il y avait 10 mesures. Aucune de ces mesures n'a été appliquée. Donc, pourquoi est-ce que ces mesures de la stratégie pour l'emploi de l'OCDE qui marchent dans un certain nombre d'autres pays, parce qu'il y a le plein emploi quand même au Royaume-Uni, il y a le plein emploi en Allemagne, pourquoi on ne les applique pas en France et pourquoi on se rabat sur systématiquement un traitement social du chômage plutôt que de réfléchir en termes de traitement économique du chômage en disant à la population voilà ce qui marche, voilà les efforts à consentir et voilà le résultat que vous obtiendrez.
Alors, à propos du chômage de longue durée, il y a le ATD Quart-Monde qui lance une expérimentation qui s'appelle le territoire zéro chômeur longue durée, qui consisterait en créer une sorte de CDI au SMIC pour des chômeurs de longue durée dans des territoires pilotes, dans leur champ de compétences initiales. Patrick Valentin, qui est le responsable de ce projet, a monté ce projet de territoire zéro chômeur longue durée parce que lui-même est relativement suspicieux vis-à-vis aujourd'hui de la pérennité, de l'efficacité des contrats aidés. Donc Patrick Valentin d'ATD Quart-Monde, qu'on ne peut pas suspecter d'être un grand libéral dans l'âme.
Nous ne sommes pas partisans de l'emploi aidé au sens habituel de ce terme, c'est-à-dire celui que nous faisons depuis 30 ans. Pourquoi ? L'emploi aidé, jusqu'ici, est un système qui permet de changer un peu les files d'attente, c'est-à-dire de permettre à des personnes plus défavorisées de passer devant sur la liste des demandeurs d'emploi. Mais l'emploi aidé, à moyen et long terme, ne crée pas un différentiel d'emploi entre la demande et l'offre. C'est-à-dire que le différentiel d'emploi reste très très mauvais, quel que soit le nombre d'emplois aidés. Bien sûr, on a aujourd'hui, paraît-il, environ 500 000 emplois aidés. C'est évidemment que c'est mieux que rien. Mais si on ne les avait pas, nous ne sommes pas sûrs qu'il n'y aurait pas 500 000 emplois réels. Peut-être 450, peut-être. Et encore, nous n'en sommes pas sûrs. Oui. Donc l'emploi aidé traditionnel se résorbe dans les mécanismes économiques.
Voilà, Patrick Valentin d'ATD Quart-Monde, interrogé par Ambre Filouze-Rousseau, je vous voyais... Vous n'avez pas l'air d'être tout à fait d'accord avec cette analyse.
Non, je suis pas d'accord. D'abord, sur la définition de l'emploi aidé. Enfin, vous voyez, quand on fait des baisses de cotisations aux entreprises, c'est de l'emploi aidé. Hein, lorsque, vous voyez, il y a
un pacte de responsabilité, c'est de l'emploi aidé.
Le CICE, c'est de l'emploi aidé. On baisse les cotisations au niveau du SMIC dans le secteur marchand. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut avoir plusieurs définitions de l'emploi aidé. Vous avez, on essaye de baisser le coût du travail pour le secteur privé, c'est de l'emploi aidé au niveau du SMIC parce qu'on considère que le SMIC est peut-être trop élevé, donc du coup, on l'aide par ces mécanismes. Ça, c'est l'emploi aidé dans le secteur privé. Ensuite, on peut considérer qu'il y a certaines personnes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification et donc vous avez beau baisser les cotisations, de toute manière, elles ne seront pas employables. Et donc, pour ces personnes-là, que l'État s'empare de ce problème-là et dise il faut les former, il faut les former à un métier comme c'est les emplois d'avenir, c'est ça. C'est pendant 3 ans, on va prendre des personnes qui sortent sans rien du système scolaire. Ce n'est pas au système privé à le prendre en charge. Ce n'est pas une entreprise qui va former un jeune qui n'a pas de diplôme à 16 ans. Donc, c'est bien à l'État.
Pourquoi pas?
Parce que alors on peut faire, mais d'ailleurs il y a l'apprentissage.
Mais
c'est à peu près le même montant, il y a à peu près autant d'apprentis. Alors c'est pas 500 000 emplois aidés, il y en a à peu près 350 000. Vous voyez, 350 000 sur 17 millions. Vous voyez, c'est infime, c'est tout petit. Ça concerne les 150 000 jeunes qui sortent sans rien du système scolaire. Bon, que l'État
sont par ailleurs une population très éloignée de l'emploi.
Ces personnes-là, on essaie de les former pendant 3 ans pour que au bout de 3 ans, ils puissent être employables dans le système privé. Moi, je trouve pas ça scandaleux et ça coûte pas du tout cher, ça, contrairement à ce qu'elle dit, ça coûte beaucoup moins cher que le CICE. Vous voyez, ça coûte 10 000 euros par an par salarié. C'est vraiment beaucoup moins cher que les baisses de cotisations que l'on fait au système privé.
Anne Edou ?
Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Hein. Alors, quand Quand on dit que les 500 000 emplois aidés, ça serait d'autres emplois si les emplois aidés n'existaient pas, c'est sans doute pas tout à fait juste, hein, parce que effectivement dans le secteur marchand, il y a ce qu'on appelle des effets d'aubaine, c'est-à-dire qui sont relativement importants, des entreprises qui recrutent en emplois aidés des gens qu'elles auraient recrutés de toute façon, mais dans le secteur non marchand, qui représente un volume très important des emplois aidés, ces effets d'aubaine sont beaucoup moins importants. Donc il faut quand même relativiser. Et effectivement, si on compare les différentes mesures de la politique de l'emploi, on distingue très souvent les mesures ciblées de la politique de l'emploi, qui représentent à peu près 2 points de PIB en France, et les mesures générales, qui concernent surtout les allègements de cotisations et qui représentent aussi à peu près 2 points de PIB en France. On s'aperçoit que les contrats aidés sont beaucoup moins chers par emploi créé que les allègements de cotisations. Un emploi créé par le pacte de responsabilité, par exemple, en tout cas dans les estimations, c'est à peu près 75 000 euros par an. Voilà, c'est quand même très coûteux par rapport aux 10 000 euros qui viennent d'être évoqués par Éric Ayer.
Alors, sans vouloir vous renvoyer dos à dos, de toute façon, emploi aidé, allègement de cotisations, dans les deux cas, pour le moment, ça ne produit pas d'effet, Jean-Marc Daniel.
Oui, je pense d'abord que l'idée que l'allègement de cotisations soit une aide, c'est pas une aide, c'est une réparation d'un certain nombre de contraintes qui empêchent le marché du travail d'être un véritable marché. Le travail, c'est quelque chose qui s'apprécie face à l'efficacité des gens qui travaillent, et si on ne laisse pas les entreprises en situation de confronter en permanence la capacité, le dynamisme des salariés et la réalité de ce qu'ils sont payés, eh bien on crée des distorsions et on crée le chômage. Et donc, on essaie de corriger ça en faisant des allègements de charges. La bonne correction, ce serait de faire en sorte que le marché du travail soit un vrai marché du travail et qu'on raisonne en termes de pauvreté et de revenus garantis. Ce qu'avait fait dans les années 90, là aussi, le gouvernement socialiste avec la prime pour l'emploi, c'est devenu une espèce d'usine à gaz incompréhensible qui va finir par la disparition de cette prime pour l'emploi en 2016, au lieu d'avoir une véritable réflexion sur les travailleurs pauvres et sur la réinsertion des gens qui sont dans une situation d'exclusion par rapport à l'emploi. La deuxième remarque que je ferais, c'est que là aussi, toutes ces mesures sont arrivées au bout de leur... Et l'apprentissage, oui, l'apprentissage était au centre de la réflexion, notamment du rapport Gallois. Il y avait 500 000 apprentis dans le rapport Gallois, on est toujours à 350 000.
Alors, on va continuer, on va poursuivre cette conversation tout à l'heure après le journal de 8h, dans la deuxième partie des Matins d'été, qui sera introduite par Brice Coutuet. Bonjour Brice.
Bonjour, comment allez-vous?
Bah, fort bien, vous-même.
Ça va, comme
et
un matin.
Et dans cette deuxième partie, on va également parler de l'État actionnaire et de cette Assemblée Générale de Renault, qui doit se tenir cet après-midi. Voilà. La volonté de l'État de remettre les mains dans la politique industrielle de façon plus interventionniste.
Oui, Nicolas, comme vous avez observé, l'État vient de commettre une espèce de raid digne d'un meilleurs traders de la City ou de Wall Street, en prenant le contrôle soudain d'un milliard d'actions de la régie Renault, enfin de l'ex-régie Renault, de la société Renault, pardon, qui est mariée avec Nissan aujourd'hui. Et je voudrais demander à vous inviter ce matin, Nicolas Martin, quel effet ça produit sur les investisseurs internationaux quand ils voient l'État français se comporter à la fois comme un acteur et comme un arbitre.
Voilà, ce sera dans la deuxième partie, dans le débat des matins, tout à l'heure après le journal de 8h. Pour l'heure, il est 7h59.